Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule, enregistré aujourd'hui en public. Nous sommes avec Vivien. Vivien, ça va la pêche?
Ouais. Ok.
J'y ai presque cru. Hein.
Bon, devinez qui sont les autres podcasteurs. Allez hop.
Voilà. On fait le matin, mais.
Nous sommes avec Natacha.
Oui, salut.
Nous sommes avec Fabien.
Hello.
On aura reconnu ton rire. Nous sommes avec Adrien.
Bonjour.
Nous sommes avec Stéphane.
Ouais, salut.
Ah, et Stéphane.
Non, oui, oui.
Stéphane, c'est notre token diversité. Voilà. On n'est pas que des mecs 100% cellules, on a Stéphane.
Tu neuf. Fais partie du pack diversité et différence.
Ouais, je suis l'excuse, mais ensuite on verra ce qu'il y a à dire. Faites gaffe.
Alors, et puis dans le public, il y a Maxime qui interviendra peut-être.
Ouais.
Quel public incroyable. Aujourd'hui, un podcast sur l'écriture des jeux, mais on va voir aussi que ça touche quand même à la définition de ce que c'est qu'une base de jeu également. C'est Adrien qui nous vient avec ce sujet de podcast. C'est un podcast sur quel équilibre choisir entre le style du livre et la clarté. Est-ce qu'il y a une opposition entre ces deux notions ou alors est-ce qu'elles sont complémentaires? Parce qu'en ce moment, Adrien, tu es confronté à un problème dans l'écriture de ton prochain jeu.
Ouais. Alors d'abord, j'aimerais juste clarifier un petit point.
Je t'en prie.
T'as dit le style versus la clarté. Alors plus que style, c'est plutôt la stylistique que le style. Parce que le style, on peut parler avec un style sans que ce soit trop lourd, je sais pas, Natacha.
Oui, tu veux dire qu'il y a des styles de diction qui sont clairs.
C'est ça.
Natacha, non. La différence entre le style et la stylistique.
La stylistique, c'est normalement l'étude du style.
Bon, Vivien. D'accord. Alors, Natacha, vas-y, dis ce que je veux
voilà,
dire.
Et c'est l'étude la stylistique, c'est l'étude du style et c'est les mots barbares tels que Paris Penoyant, proposition
interposée.
La célèbre
course cycliste entre Paris et Penoyant.
voilà, pour parler du style et moi en général, les cours de stylistique à la fac, je les ai fui un petit peu. Donc, voilà.
D'accord. Alors donc du coup, tu serais plutôt d'accord avec mon intitulé de sujet, c'est-à-dire qu'on va plutôt partir du style opposé à la clarté plus que du styliste, de la stylistique.
Je parlerais de littérarité, moi, en fait, presque.
Ok.
Littérarité, c'est quoi? Ah oui, c'est le fait que le contenu de l'ouvrage puisse avoir une valeur littéraire, une qualité littéraire.
J'ai cru que t'allais dire contenu fictionnel malléable.
Non, plus, j'en peux plus. Arrête avec le mainstream, stop.
Oui, et c'est le fait que aussi la forme et le fond soient en adéquation parfaite et que quand tu étudies, quand tu cherches à l'étudier, quand tu cherches à comprendre comment l'auteur a composé, comment l'auteur a fait ressentir ce qu'il fait ressentir au lecteur, ça résiste. Tu peux toujours trouver des interprétations.
C'est marrant ça, parce que la jonction entre la forme et le fond, pour le coup, on la trouverait plutôt entre les mécaniques et ce que nous, on appelle ici le propos, tu vois. Et donc, du coup, la littérarité, ça serait... on pourrait l'appliquer aux parties.
Oui, mais finalement, la forme, c'est pas seulement le papier ou la forme du bouquin, c'est aussi la façon, les mots choisis, la façon dont ils sont agencés, la syntaxe et tout ça. Oui.
Ah, c'est ce que j'ai dit,
Natacha.
Non, je suis fatigué.
Alors, moi je viens un peu en roue libre sans trop savoir de quoi on va parler. Donc...
J'aime quand t'es en
roue. Mais t'es pas roue.
Oh, pourquoi on n'a pas notre darky?
Stop avec ce discours.
Eh ben parce qu'il enchaîne dans la cave. Il est pas libre.
Donc c'est pas un roue libre.
C'est discrimination anti-roue. Stop, je refuse.
Mais c'est pas une discrimination.
Pour une fois, j'ai pas de plan. Donc, Mais donc ma question, c'est est-ce que le sujet du podcast, c'est la différence entre des jeux qui expliquent beaucoup l'esprit de leurs règles et des jeux qui ne l'expliquent pas du tout. Par exemple, je pose parfois Zombie Cinéma, qui se fait sur sur deux feuilles A4 ou Ghost Echo, qui sont extrêmement secs. En termes de qui donne juste les mécaniques les règles en fait même le système en général sans expliquer comment il faut l'utiliser par opposition à des jeux comme Blistage ou Shades ou Polaris Polaris c'est encore différent donc Blistage ou Shades dans lequel on explique beaucoup comment il faut jouer le jeu, quel est le but du jeu, quelle est la dynamique sociale recherchée, dans quel esprit il faut se mettre.
Pour moi, c'est l'opposition entre Sens Chaos et Leval.
Oui, voilà, moi j'avais plutôt ce genre de choses en tête. C'est-à-dire que c'est plutôt comment tu transmets le mieux. Alors, moi je pense qu'on n'est pas sur la distinction entre l'esprit
et la
lettre.
C'est un peu de la littérature en fait.
C'est plutôt comment tu transmets le mieux l'esprit du jeu. Est-ce que c'est en clarifiant au maximum tes règles et en diffusant uniquement tes règles et en attendant
pour que
de la partie.
Le lecteur arrive très facilement à une partie.
C'est ça.
Et en appliquant les règles qui sont dans le livre.
Et donc au vide fertile, tu vois, quelque part de la partie, puisque avec des règles claires, tu atteins l'objectif.
Nobilis versus Donjons et Dragons, par exemple.
Non, c'est vraiment Leval. Moi, je suis d'accord. C'est vraiment Leval versus Magic, en fait.
Alors, est-ce qu'on peut expliquer ces exemples ? Parce que je ne suis pas sûr que
tu me saisisses. En gros, dans Magic, ça sera une liste de règles, avec première règle. Les joueurs, à leur tour, peuvent faire l'une des choses suivantes. Deux points. Premier tiré. Ils peuvent poser un terrain. Une limitée, entre parenthèses, limitée à une fois par tour. Deuxième tiré. Ils peuvent poser une créature s'ils payent leur mana. Troisième tiré. Ils peuvent jouer, machin, etc. Donc, tu aurais une liste d'éléments avec... aucun élément de fiction dans les règles, avec comme si c'était un manuel de machine à laver.
D'accord. Tu vois, ou de... D'ailleurs,
ça. Et dans le cas du Val, là, les règles sont complètement noyées dans une sorte de folklore, dans une sorte de.
C'est ça.
De fluff, de.
C'est ça. C'est...
Ou en utilisant un vocabulaire qui est spécifique au jeu et que du coup n'est pas très
Maxime,
clair pour le lecteur.
Maxime veut intervenir.
Ouais, dans le Val, typiquement, quand tu utilises, au lieu de dire vous retournez votre carte, tu dis l'arcane se retrouve face contre ciel. Typiquement, voilà, ça c'est des mots stylistiques, littéraires. Ouais. Et mais par contre, je pense qu'il faut surtout essayer de trouver là, vu qu'on est sur un podcast de jeux de rôle, essayer de trouver des exemples de jeux de rôle plutôt que des jeux de plateau ou des jeux de cartes.
Oui, on en a. T'inquiète pas. Pour expliquer, parce que c'est vrai que j'utilisais pas Magic comme exemple, mais vraiment Sens Chaos, parce que du coup, c'est le même auteur, donc ça m'intéresse justement parce que je trouve que c'est deux approches complètement différentes entre le Val et Sens Chaos. Moi, le Val, j'ai été extrêmement séduit par le style, c'est-à-dire que tu nous embarquais dans un univers avec une mythologie et chaque règle était transmise par un biais complètement presque symbolique et je galérais vachement à un moment pour comprendre ce que t'entendais vraiment par l'arcane est posée face contre ciel, terre. Où je me disais mais est-ce que ça veut dire qu'elle est à l'envers, face cachée, la tête en bas, on comprenait qu'à la fin une fois qu'il y avait un petit tableau de rappel.
Tu vois.
Et à l'inverse, je t'avais fait effectivement un petit reproche sur Sens Chaos, justement, alors que c'est parce qu'il allait dans l'autre sens extrême, c'est-à-dire le côté, voilà, qu'est-ce qui se passe quand un joueur affronte un autre joueur? Qu'est-ce qui se passe quand un joueur est en conflit avec son personnage? Qu'est-ce qui se passe quand deux personnages sont en conflit? Qu'est-ce qui se passe, etc., avec des titres bien carrés, éventuellement, et un langage qui se veut, mais vraiment le plus clair possible, le moins de zones d'ombre possible également, etc., au point finalement que j'en sentais presque un étouffement de trop.
Ouais, je peux faire un texte de philo. Quoi,
ouais, c'est ça. Je veux épuiser le sujet et être la définition la moins critiquable possible.
Fabien puis Stéphane. Stéphane, peut-être d'abord. Ça t'avait demandé la parole.
Pour essayer de prendre un exemple dans le champ des jeux de rôle, j'aurais envie de citer Pirate, qui est un jeu qui, il me semble, est entièrement présenté à la première personne, comme si un mousse découvrait la vie de pirate.
Pirate de Jeannot.
Je ne me souviens plus du nom de l'auteur.
Parce que. Chlopoto ?
Oui, il me semble que c'est ça, absolument. Et en fait, là aussi, en fait, j'ai ressenti quelque chose un peu comme le Val, c'est-à-dire que à la lecture de ça, en fait, on est emmené dans quelque chose qui est très coloré et qui nous met dans cet univers-là et qui nous indique quel est, du coup, l'esprit de la règle est transporté en même temps que la règle. En même temps, c'est pas un bouquin de référence sur lequel on peut revenir facilement pour voir quel jet faire.
C'est ça. Fabien,
alors moi, mais c'est pas, j'ai d'autres exemples en tête. On pourrait parler de Slay With Me aussi, par exemple. Alors, j'avais fait un petit peu de. Il y a Vivien qui attend.
Oh, on va en parler de Ron Edwards. On va en parler, Fabien.
mais je voudrais faire un petit peu avancer la question. Donc, je m'étais un peu intéressé à des histoires de poétique parce que les questions de langage, c'est aussi un peu mon dada. Un truc que j'avais retenu, c'est que donc, quand on parle de stylistique, il y a l'idée qu'il y aurait ce style zéro, qui serait un style transparent, qui serait l'utilisation la plus
commune. Le mode d'emploi de la machine à laver.
Voilà, c'est ça, le plus commun de la langue, qui, à mon avis, est un peu une illusion. Parce qu'en fait, y compris l'emploi de la machine à laver, c'est un certain type de langage. Enfin, il y a cette idée que voilà, on emploierait le langage le plus dans la norme.
Tu veux dire au sens aussi du degré zéro de l'écriture de Barthes ou... c'est cette idée qu'on peut dépouiller finalement le style complètement et communiquer par ce biais-là aussi quelque chose.
Ah, c'est peut-être ça. Ouais.
J'irai pas très très loin là-dessus non plus, ma connaissance.
D'accord.
Il y a un peu cette idée, en tout cas, de style zéro.
On aurait un qui serait le style. Mais enfin, À nouveau, à mon avis, c'est une. Parce que c'est souvent. Enfin, tu vois, le style qu'on considère dans la norme, c'est en fait souvent un style qui appartient à une certaine classe, à souvent ceux qui maîtrisent le capital culturel, donc plutôt un langage de prof, enfin, qui. Vas-y, réagis, Natacha.
Ton histoire de. Ça me fait penser éventuellement au style qu'on pourrait attribuer. Alors, je vais essayer de ne pas être trop méprisant envers ces jeux, mais. Ça me fait penser au style des jeux de rôle classiques, tu sais, qui décrivent un background et qui sont souvent écrits dans un même style qui est un peu littéraire, mais alors, pas trop. Et
j'aimerais revenir à ça ensuite. Ouais. Mais Natacha, vas-y, réagis.
Lève les yeux au ciel.
Alors, en fait, il faut que j'arrive à structurer ce que j'ai envie de dire. Et pas, donc, ça va être un peu compliqué. Déjà, je vous préviens, j'ai enclenché le mode élitiste on de Natacha.
Il faudrait une petite musique pour ça.
Trouve-nous un jingle.
Pour moi, tu peux arriver à tirer quelque chose d'un bouquin écrit de façon littéraire et recherchée sans forcément tout comprendre comment c'est fait. Enfin, je veux dire, je passe pas moi personnellement. Bon, je vais parler de roman, je suis désolée, mais quand je lis un roman, je passe pas mon temps à relever à chaque fois toutes les figures de style. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à mes élèves. C'est pas la question que vous vous posez quand vous lisez un texte, et c'est pas la question que je leur pose.
Comment c'est lié à ce que
je dis ? J'en vois du tout comment c'est lié à ce
et
que
j'ai, j'en viens.
D'accord.
J'y viens. C'est pour ça que je disais, j'essaye de structurer mon discours.
Ok, ça marche.
Moi, je vois un petit peu où tu veux aller.
Donc du coup, c'est tout ça pour dire que c'est un langage de prof, mais c'est pas le langage de prof, c'est celui qui est appliqué, c'est celui qui sert à l'étudier, c'est pas celui qui sert à l'apprécier, voilà.
Et oui.
Merci.
C'est ça.
Je n'arrive toujours pas à faire la connexion.
Ce qui veut dire, c'est que le langage. Pardon, excuse-moi. Vas-y, Maxime.
Non, je pense que je pense que Fabien, il parlait d'une question de vocabulaire pur, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à ce vocabulaire-là. Oui, clairement, et c'est une question culturelle, c'est une question de t'aîner avec les parents qui parlent avec ce vocabulaire ou des parents qui ne vivent pas avec ce vocabulaire. Donc tu peux l'apprendre, on est d'accord, on est dans une société où tu peux l'apprendre, mais c'est dire que tout le monde peut l'apprendre, c'est nier les déterminismes culturels et sociologiques. Donc il faut faire attention.
Je précise aussi que je suis un prof au niveau génétique. Mes arrière-grands-parents étaient instituteurs. J'ai des profs dans toutes les directions. Moi, je suis chercheur et j'adore enseigner. Enfin, ça se sent, j'imagine, aussi dans les micros. Donc je dis ça aussi, voilà.
Maxime.
Et à côté de ça, moi, je suis génétiquement ouvrier, voire paysan, et pourtant, je maîtrise le vocabulaire. Donc comme quoi, comme on dit, tout est accessible. C'est juste une question de... d'héritage, de vécu. J'ai vécu entouré de profs à côté de ça.
Tu m'entends toujours ?
Je t'entends, il n'y a pas de problème.
Oui, bon.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Rien, mon micro a...
Ah non, t'inquiète, la prise à je t'entends.
On reviendra une autre fois sur la psychanalyse, sociale.
C'est très intéressant, parce que ce que tu veux dire, si je peux me permettre de retraduire un petit peu, c'est que finalement, rien n'est clair, objectivement clair. Tout dépend de quel milieu social on vient. Pour un milieu social donné... tel terme, tel lexique
même d'une
sera
d'une
clair,
culture,
mais pour un autre, telle culture.
C'est
tout
ce
à fait.
Qu'on dit tout souvent quand tu parles de MJ dans un livre, de PJ. Enfin, il y a un vocabulaire rôliste qu'il faut acquérir aussi, quoi. Hein.
Et pour ça, il suffit de lire une circulaire de la fonction publique pour le comprendre.
Voilà, enfin, bon.
Qu'est-ce que le jeu de rôle
Tout ce que je veux dire, c'est que on part d'une fiction. Tout ce que je veux dire, c'est qu'on part de la fiction qu'il existerait un style zéro. Ok.
Ouais.
Dans cette longue parenthèse, je tenais juste à préciser qu'à mon avis, cette fiction, ce style zéro, c'est une fiction, d'accord ? Qu'il faut pas, enfin, c'est toujours cette histoire d'éviter de croire objectif parce qu'on finit par être extrêmement subjectif.
Même dans les manuels de voitures, de machines à laver ou autres, il va y avoir du vocabulaire qui est spécifique à l'objet en question. Et si on ne sait pas ce que c'est qu'un carburateur, par exemple, si on lit le manuel qui nous dit pour changer la paroi carburateur. Même si c'est dans ce langage qui se veut manuel...
Il y a un truc qui fait du bruit, là.
Ah,
non, c'est bon.
Éloigner
bon,
mon téléphone,
bon.
Peut-être.
Non, ouais, je crois que c'est encore ton smartphone. Désolé. Tu disais, excuse-moi, Adrien.
Je disais que même dans ce qui peut se rapprocher de ce style zéro, donc quand on entend peut-être un dictionnaire, un mode d'emploi ou autre, il peut quand même y avoir du vocabulaire très, très technique, très spécifique
à
l'objet en question.
Tout à fait.
Donc, je suis assez d'accord avec Fabien que ce style zéro, on va dire cette écriture épurée, compréhensible par tous, qui signifie, qui serait accessible et claire sans sous-entendu, en fait, c'est un peu une sorte d'utopie.
Voilà, donc
on reviendra.
Je continue à faire Monsieur Structure. Donc il y aurait des jeux écrits dans ce style, il y aurait des jeux qui auraient un style recherché, c'est-à-dire qui chercheraient à s'éloigner de cette norme, et je pense à s'éloigner volontairement de cette norme. C'est peut-être ça le style, c'est que dans le style on cherche à s'éloigner, on recherche, c'est pas quelque chose d'automatique.
Est-ce que tu peux formuler différent ?
Si tu veux.
En gros, ça serait... Dans une écriture de jeu de rôle ou autre, ça serait soit essayer de se rapprocher du style zéro, soit essayer de s'en éloigner.
Voilà. Okay.
Alors après, on n'atteint pas le style zéro et on s'éloigne dans la direction qu'on veut, mais ça serait ça, okay. Ça, l'idée.
J'aimerais vraiment et qu'à ensuite, un moment donné, Adrien nous présente à proprement parler le problème qui lui a conduit à nous proposer ce thème.
D'accord. Et ensuite, je voulais reconnecter un truc qu'avait dit Natacha qui me semblait vachement intéressant, qui était cette question du lien entre la forme et le fond. C'est-à-dire que... ce qu'on reproche, bon, on peut reprocher un style d'être incompréhensible, mais à mon avis, c'est un peu une fausse critique. En revanche, on peut reprocher un style de correspondre à un fond, quel que soit ce fond, ou de ne pas correspondre. C'est ce que parfois on lit comme critique, tu sais, quand on entend « Ah oui, ben, ce jeu de rôle, on nous parle de damoiseau, de damoiselle, et puis c'est très empoulé, mais après, juste un système de combat, quoi. »
Si tu présentes le système d'une machine à laver pour jouer à un truc dans lequel on fait des joutes oratoires, par exemple, c'est un peu bizarre, quoi. C'est ça que tu veux dire ?
Si tu dis « Et alors, Jean, damoiselle, ouvrez le hublot de la machine à laver, déposez-y l'obol.
» Jean, damoiselle, d'abord.
En fait, si tu veux.
Jean Damoiseau, ensuite.
Espèce... Ah, on retrouve encore des. Alors, justement, pour les histoires de style zéro qui sont une illusion, on trouve encore des modes d'emploi d'électroménager qui commencent par Madame, vous avez fait un excellent choix en achetant cet aspirateur.
Classe. Stéphane. Il y a une autre chose, en fait, que j'aimerais aborder dans ce podcast. C'est l'idée que la plupart des jeux de rôle, des bases écrites, font souvent aussi des alternances de choses qui ont des styles différents. On peut y trouver quelque chose comme une note d'intention, on peut y trouver quelque chose comme une nouvelle d'introduction qui est là pour essayer d'amener la couleur. On peut y trouver des descriptions de background qui ressemblent souvent pas du tout aux descriptions de règles. Donc, en fait, on dirait qu'il y a des auteurs qui, pour transmettre leur jeu, ont décidé de tronçonner en différentes façons. Et j'aurais qu'on
avec le style n'est pas toujours le même.
Ah oui, et dans la même base, en fait, il y a différentes strates qui ont des styles très différents.
Ça existe depuis vraiment toujours. Ce que tu dis là, c'est vraiment... C'est clair.
Fondamentalement,
il y a les encadrés de règles et à côté les textes.
Et fondamentalement, il y a le split de Donjons et Dragons. Entre Donjons et Dragons, c'est un livre de règles, et puis ensuite, il y a des univers qui sont ailleurs et qui sont même écrits par d'autres. Et du coup, en fait, il n'y a pas forcément d'unité.
Maxime, puis t'avais une blague à deux francs.
Ouais, juste une petite blague. En fait, moi, j'imagine le manuel de machine à laver où il y a les règles d'utilisation et puis y a un petit encadré avec. Et Samantha déposa son linge dans la machine.
Et là, samedi soir, premier samedi du mois.
C'est ça, exactement.
Moi, je me demande, là, c'est intéressant ce qu'il dit, mais je pense que clairement, le but du podcast, c'est d'étudier ça dans la transmission des règles. Et je pense que tous les textes d'ambiance autour, je pense qu'il ne faut pas trop rentrer dedans, ce qui peut être intéressant.
Je pense
que c'est vraiment
Je pense que je peux en profiter pour présenter mon problème.
Dans le jeu de rôle, distinguer l'univers et les règles, déjà, c'est problématique. Mais Adrien, enfin,
allez,
peut-être,
voilà, c'est parti,
ton problème.
On joue un peu le truc, vraiment, et je viens sur mon problème.
Non, c'est intéressant.
Donc ça touche à Éveil, mon prochain jeu. Ça, en fait, l'idée commence avec l'écriture de l'agence et avec mon ressenti de l'agence. C'est un jeu qui est extrêmement mécanique, qui est une belle petite horloge avec toutes les règles qui tournent bien ensemble. Donc, je parle toujours de l'agence. Et l'écriture est extrêmement manuelle, de machine à laver presque. Alors, ça colle un peu avec...
Là, tu parles de l'agence.
Ouais, ça colle un peu avec l'univers qui est bureaucratique, européen, etc.
Et oui,
mais
et Natacha, oui. Pine du chef, l'air de dire, vous voyez, c'est ça, c'est qu'il
oui,
faut.
Oui, mais c'est ça, et c'est ça. Alors c'est pas, enfin, je dirais pas, voilà, c'est ce que j'appelle la littérarité, en fait.
C'est une forme
de littérarité.
Disons que c'est plus un accident heureux, c'est-à-dire que pour écrire des règles claires, ça se fait bureaucratique, en fait. Donc ça passe bien dans l'agence. Je suis d'accord.
Toi, en tant qu'auteur, tu te dis, tiens, j'ai du bol, je peux.
Oui, mais du
faire,
coup, tu t'es posé la question.
Mais j'ai pas fait une surenchère non plus en parlant de, je sais pas moi, de codicille, d'appendice, de machin, de.
Pour créer un barbare, aller chercher la fiche rose B472,
le formulaire bleu. A38. Mais je ne
donc,
veux pas
ouais,
le corps.
Si vous arrêtez de me couper, vous voyez, bordel de.
Je ne suis pas fou.
Bordel de. Hein, voilà.
Le podcast.
Et donc là, quand j'ai commencé à travailler sur Éveil, j'avais envie de partir dans une autre direction et de ne pas aborder mon écriture en me disant il faut que j'ai des règles claires, mais il faut que le style d'écriture d'Éveil colle à ce que le jeu veut transmettre.
D'accord.
Et donc je me suis donné un défi stupide que je regrette un peu amèrement aujourd'hui, mais qui avance doucement, c'est d'écrire Éveil en vers. Donc en octasyllabes qui riment avec un vocabulaire, avec... Qu'est-ce qu'il y a ?
Octosyllabes, l'AB, sens...
Hein ?
Je vais vous faire un truc.
Il fait des références à Ridicule, je crois.
Voilà, c'est ça. Et je me couvre
de... Je te soutiens,
de
Fabien.
Merci, allez, un petit high five Ridicule, voilà.
Et donc Éveil sera écrit en vers et contre tout.
C'est d'ailleurs, ça, exactement. Ouais. Enfin, bon. Exactement. Et donc mon gros problème aujourd'hui, c'est que... ben j'avance, pour moi c'est à peu près clair dans ma tête parce que ben, je sais ce que je veux mettre dedans, donc j'arrive à y lire ce que j'ai envie d'y lire, mais je suis pas sûr que... Enfin, d'ailleurs Romaric a pu l'essayer quand je lui ai passé en relecture ce que j'avais écrit jusqu'à présent.
Ouais, mais il y a une petite erreur fondamentale un peu, je pense que si j'avais su...
Tu veux dire qu'il prend le problème à l'envers?
Ouais, je t'en prie, Adrien.
C'est... Non,
en fait, le truc,
merci,
c'est que moi j'ai vraiment relu le Éveil, le début en tout cas, tout ce qui était écrit à ce moment-là. Et j'y ai cherché des mécaniques. Parce que Adrien, dans son mail, le mail qu'il m'envoie avec la relecture, ouais, c'est je voudrais vérifier que.
Tu comprennes.
Même à travers des vers et des octosyllabes, tu sois capable de comprendre les mécaniques. Et donc moi je suis parti dans un biais qui est que du coup j'ai cherché des mécaniques tout le temps, toujours. Et du coup en fait les premières strophes c'est juste de l'univers. Et du coup dans ma relecture je me disais mais qu'est-ce qu'il veut dire au niveau des mécaniques alors que c'est juste de l'univers. Donc je me suis pris la tête comme un ouf sur les premières pages en me disant...
Tu sépares l'univers et les règles du coup ?
Non, je veux dire de la mécanique. J'ai dit mécanique non ? J'ai dit règles ? Excuse-moi. Donc tu vois, j'ai cherché des éléments mécaniques, des trucs pour le jeu, tu vois, le contrat social. On a déjà perdu il y a moins d'une demi-heure, on perd tout le temps. De toute façon, moi je vois la tête d'Adrien, je perds. Donc comme ça c'est fait.
Et en même temps c'est mon tatouage sur le front. Enfin,
oui, c'est ça.
Moi je joue au jeu dans lequel chaque fois que je pense au jeu, je gagne au jeu.
C'est beau ça.
Moi je triche au jeu.
Alors le truc, si tu veux, c'est que du coup avec ce biais de lecture là, j'ai pas apprécié le style. J'ai pas apprécié. J'ai vraiment cherché à analyser. C'est ce que disait. Moi, je trouve que la distinction de Natacha entre apprécier et analyser, au sens de analyser la stylistique et apprécier le style, c'est vraiment une distinction qui est utile ici, parce que là, en l'occurrence, j'ai mal employé ton livre. Tu vois ce que je veux dire ?
Ça m'évoque la différence qu'il y a quand on lit un livre pour le lire, oui, et quand on le lit pour chercher les fautes d'orthographe et les, oui, machins, et où à la fin on se souvient même plus de ce qu'on a lu, ni de la qualité du style. On a vraiment tellement fait gaffe à l'aspect utilitaire de cette lecture qu'on perd en fait. Et c'est peut-être le risque qui pend au nez des personnes qui transmettent une mécanique par un style littéraire, c'est-à-dire est-ce que les gens vont pas se perdre finalement le plaisir de lecture parce qu'ils y cherchent de toute façon ce dont ils ont besoin pour jouer ensuite, quoi.
Oui.
Donc du coup... Toi, la question que tu m'avais posée dans tes relectures, c'était est-ce que, oui ou non, tu penses que cette contrainte forte qui pèse sur mes règles d'écriture, l'octosyllabe, la versification, le fait que ce soit en strophe, je ne sais plus d'ailleurs combien de vers, 10 vers, eh bien, est-ce que, oui ou non, on arrive à transmettre les règles du jeu ?
J'ai envie de raconter mon expérience. En fait, j'ai testé il y a quelques jours maintenant Éveil. Et en fait, au début de la partie, tu as fait ce geste de nous donner quelques feuilles avec ces carrés dans lesquels étaient ces vers. Et voilà, j'ai commencé à lire cela et c'était pour moi une véritable épreuve parce que j'ai essayé de comprendre ce qui était là et ce qui était là en fait était un matériau intéressant et lisible si on en faisait une lecture rapide pour amener de la couleur et pour entendre sonner les mots et commencer à s'habituer à la petite musique de ce jeu, mais c'est pas du tout ce que j'ai fait. Ouais. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est dire, ok, c'est un espèce d'équivalent de mémento des règles, équivalent de feuille de personnage. Il va falloir que je comprenne absolument ce qui est dans ce document. Et du coup, je me suis mis à bugger. Je me suis mis à lire à peu près deux fois plus lentement que mon voisin d'à côté. J'ai eu une pression terrible. Vais-je réussir à jouer ?
Il m'est arrivé exactement la même chose, finalement.
Juste pour ma défense là-dessus, j'avais précisé quand même que c'était un rêve que vous faisiez la première nuit avant que vos personnages s'éveillent. Oui. Donc, c'est... Enfin bon.
Oui, non,
juste pour aller dans ce... Moi, de mon souvenir, c'était... Toi, tu nous l'avais lu, je crois. Non, on ne l'avait pas lu nous-mêmes. Mm. Et c'est vrai que j'essayais d'y chercher dedans les éléments dont je vais aller avoir besoin. Et je galérais pas mal parce qu'il y avait cette... La littérarité, justement, allait à l'encontre de la clarté, finalement, des informations. C'est-à-dire, ne mettez pas en avant les informations les plus essentielles. Et je me disais, oula, je suis en train de me perdre, là. Ça fait un moment, j'ai perdu la moitié des infos, déjà. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a ce risque-là, quoi.
Et là aussi, différence de médias, il me semble que durant le débrief de cette partie, on s'est mis à lire ces textes. Et en fait, à l'oral... ce même texte passé à l'oral, même si on ne comprend pas tout parce qu'on ne voit pas comment les mots sont découpés et qu'il y a des subtilités dans le découpage des mots, ça passait beaucoup mieux.
Il a pas de bol, Adrien. Premier playtest qu'il fait, il les lit à l'oral, on dit c'est imbitable, tu nous passes les fiches. Alors du coup, il passe les fiches et c'est imbitable, tu nous le fais à l'oral.
Le pire, c'est que c'est vrai. Ceci dit, pour revenir juste.
C'est moche.
Il vous l'a lu à la fin de la partie, c'est ça ?
C'est Frédéric qui s'est dit, je vais le lire à la fin.
Sauf qu'à la fin de la partie, vous avez déjà une partie derrière vous et il n'y a plus la même problématique pour moi.
Le texte, il a très très peu de choses à voir avec la partie.
Ouais, mais peu importe, tu vois, c'est plus le même état d'esprit, et t'as quand même une certaine familiarité.
Première fois que t'as utilisé une machine à laver, tu sais utiliser toutes les machines à laver.
Exactement. Hein. De toute façon, toutes les machines à laver se ressemblent. On est bien d'accord.
Oui, il y a les machines à laver traditionnelles.
Voilà, les machines à laver traditionnelles.
Avec un tambour dirigiste. T'as les machines à laver où chacun peut faire tourner le tambour et obtenir un maelstrom s'il veut.
Putain, vous êtes fous. Il faut pas les mettre ensemble, les deux-là, ils sont complètement tarés. Alors, mais finalement, la question, c'est qu'est-ce qu'une base de jeu de rôle ? Quel est le rôle d'une base de jeu de rôle ? Est-ce que ça doit être un bel objet, un objet digne d'être apprécié du point de vue esthétique, du point de vue artistique ? Ou alors, deuxième partie du curseur, est-ce que ça doit être uniquement un mode d'emploi destiné à transmettre du mieux qu'il peut des règles strictes à quelqu'un.
Alors, je crois que
Pardon,
Natacha. Excuse-moi.
Pour moi, je comprends pourquoi ça peut pas être les deux.
Mais non, mais encore une fois, moi, je te dis, c'est même pas une. Ah oui, non, t'as raison. J'allais dire, c'est un curseur, mais non, t'as raison. Ça peut être vraiment les deux, en fait.
Alors moi, je suis pas d'accord avec Natacha. Bon.
Oui, on a compris depuis le début de la podcast.
Alors. Je trouve que ça touche un peu à la problématique du fétichisme de l'objet. La problématique du fétichisme de... Laissez-moi défendre mon point de vue. La problématique du fétichisme de l'objet, c'est l'idée de dire qu'il y a un danger, un piège dans lequel il ne faut pas tomber, qui est de mettre plus d'énergie dans la forme de l'objet livre qui contient le jeu de rôle que dans les parties qu'il produit.
Ouais, mais ça, faut comprendre les genres de jeux de rôle. Les acheteurs, ils jouent plus à leur jeu, donc ils ont envie d'avoir au moins que ce soit joué.
Voilà. Maintenant, je suis aussi d'accord avec Natacha quand elle dit que on peut faire les deux. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est de l'ordre du piège, tu vois. C'est-à-dire que si tu mets trop, enfin,
qu'on soit bien clair, quand on dit forme, on parle bien de l'objet et de la forme du style, quoi. Le style comme forme, en fait.
Oui, tout à fait.
Oui, moi, je parle vraiment du contenu. Je parle pas, enfin, du contenu de.
Du style.
Ouais, de l'écriture, quoi, des mots sur les pages.
Oui,
pas
mais pour moi, ça fait aussi.
Vous pouvez le publier en PDF hein, si c'est bien écrit. C'est
pour bon. Moi, oui, pour moi, ça fait aussi partie de. Ça fait aussi partie. Le style fait aussi partie de la forme, en tout cas, parce que ça n'est. Enfin, de la même manière qu'une illustration, ça influe, ou une nouvelle d'ambiance, ça influe sur les parties que tu vas produire. Mais,
oui, non, mais voilà, c'était juste pour qu'on soit bien clair là-dessus. Comme quand Romaric dit, ils achètent, mais ils ne jouent plus, finalement. C'est pas seulement pour faire beau dans la bibliothèque, mais c'est aussi pour faire beau s'ils le lisent le soir chez eux,
oui,
en disant bon, je l'ai acheté, je vais lire, ok, c'est agréable, c'est cool. Y a
mais
un
tu
joli
sais
style,
que moi, une des raisons, et ça va peut-être éclairer ce débat, une des raisons pour laquelle j'ai fait en sorte que Sens soit lisible comme un roman, c'est parce que j'avais parfaitement conscience, qu'une partie d'une campagne de 36 scénars, les gens la feraient pas. Il y a beaucoup de gens qui achèteraient ce livre sans jamais la faire.
Attends, Natacha et moi, on va fusionner, on va être d'accord, tu vois.
Natacha.
Donc,
je suis pas d'accord en fait. Hein.
Non, mais ça va.
On fera pas de fusion à trois, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Donc, le style qui influe sur la partie, c'est ça ce que tu voulais dire?
Oui, oui. Du coup, pour moi, justement, en fait, tu confirmes ce que j'essaie de dire. C'est-à-dire que si le style a une influence sur l'ambiance que tu veux donner à la partie, c'est bon, le joueur ou le meneur de jeu aura compris le sens de ton jeu et donc fera une bonne partie de
tout
jeu
à fait.
Tel que tu auras voulu l'écrire.
Et on arrive, c'est pour ça qu'on revient à nouveau, à mon avis, à des problématiques de forme. C'est-à-dire que ce soit pour le style ou que ce soit pour la forme de l'objet de manière générale, qui est que tout ça, enfin la forme, doit servir le propos. À partir du moment où la forme est indépendante, où on fait du style pour faire du style, on fait des illustrations.
C'est pas ça que je défends. Hein.
Mais je sais très bien, Natacha. C'est bien pour ça que si tu veux, je dis que c'est bien pour ça que je dis que c'est un piège dont il faut se méfier quand on écrit un jeu. À partir du moment où tes illustrations, tout ça sert un propos et va véritablement et ne se sert pas soi-même, j'ai pas de souci avec ça, quoi.
Par exemple, Andrea. En fait, je pense que je peux illustrer ça avec Slay With Me. Qui a des illustrations qui n'ont absolument aucun rapport avec le propos du jeu.
Dans la version française,
je crois. Dans la version française.
Alors, non, pas tout à fait quand même.
Elles sont quand même. Elles véhiculent quand même une image qui est assez loin de ce qu'on véhicule... des parties.
Oula. Donc, il faut savoir que j'ai fait la traduction française de Slay With Me pour la boîte à eux. Alors, on va parler. Puisqu'on parle de Slay With Me, on va pouvoir parler de Ron Edwards, Vivien. Les illustrations américaines ne sont pas des illustrations très poussées techniquement, pas très, très belles. Elles sont, je crois, même pas homogènes en termes de style. Oh. Mais elles voient deux idées. D'une part, l'idée que de sexualisation de l'amant, qui est quand même souvent une femme, il faut reconnaître, dans les illustrations américaines.
De toute façon, c'est de la sword and sorcery à l'ancienne. Quoi,
mais dans les illustrations, il y a aussi des personnages à poil, il y a aussi des personnages dont le genre n'est pas très clair. Des hommes à poil, ce que je voulais dire.
Ça donc, m'avait si l'air quand même assez dirigé dans ces...
Ok, il y a quand même une illustration sur les 10 sur lequel ça peut être interprété assez largement. Et il y a des illustrations de femmes... c'est le moment où l'amant peut devenir le monstre dans Slay With Me. C'est à la fois le désir, celui qui va nous tuer. Donc c'est lié. Et effectivement, la version française, il y a beaucoup de... Il n'y a que des femmes à poil... Enfin, les femmes, quand les personnages sont, pour le coup, hyper sexualisés, oui. Ça, c'est clair. Mais c'est pas lié à la question du style...
Directement.
Enfin, c'est juste, puisque tu poses la question...
Si ce qui avait été à poil, c'était systématiquement des extraterrestres ou des monstres, ça aurait quand même orienté le style des parties.
Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que ce que j'aime bien dans les illustrations de la version américaine, c'est que ça suggère un peu plus de diversité.
Ouais.
Et
que
ça suggère aussi le monstre amant, quoi. Mais là, les monstres amants, c'est que des femmes, pour le coup, dans les illustrations. Alors, en revanche, on peut parler de Slay With Me sur son style, puisque Slay With Me est un jeu qui est exclusivement à la deuxième personne. Donc, tu fais ça, tu vas dire ça, et le héros, il faudrait que je l'ai sous les yeux, il n'y a pas ici. Bon.
Et troisième personne aussi, si on compte l'amant, il me semble que lui est décrit à la troisième personne.
Hein. Oui, c'est possible, je sais.
Du coup, comme il y a deux joueurs, finalement, ça s'adresse aux deux joueurs en un sens.
C'est ça.
Le héros, c'est tu, et le...
Voilà,
évidemment,
c'est il
fait ça ou
et jeu c'est le monstre, enfin c'est le monstre et l'amant.
Ah d'accord.
Jeu c'est le monstre et l'amant.
C'est pas il.
Voilà. Okay. Donc c'est écrit à la première et à la deuxième personne et donc ça renvoie au fait que Slay With Me c'est un duel amoureux si tu veux. Enfin
c'est un dialogue.
Ouais. Oui, comme tous les jeux à deux, mais là, dans Slay With Me, il y a vraiment ce côté duel amoureux si tu veux. On sait pas vraiment si on va se tuer ou s'embrasser quoi. Et on peut faire les deux.
Tu veux continuer sur ce truc-là, parce que je voudrais ajouter un truc juste sur ce point-là du
jeu. Non, vas-y.
C'est quelque chose. Alors, je pense que je l'ai pris justement de ce jeu, parce que puisque je l'ai, que j'ai mis dans Perdu sous la pluie, s'adresser directement pas au meneur de jeu, mais à l'enfant perdu. C'est-à-dire, comme dans mon jeu, on change régulièrement de tour. Tous les joueurs vont à un moment être enfant perdu et s'adresser à cette personne-là en disant tu, etc. Et en parlant des autres à la troisième personne du singulier, justement pour me faciliter en fait l'écriture. Je trouve que c'est un moyen extrêmement puissant, en fait, justement, d'introduire une forme de littérarité, ouais. C'est-à-dire de faire que ça coule de source, en fait, et ça établit une frontière claire sans dire toutes les deux minutes le personnage joueur, voilà. Et le MJ, enfin, ou peu importe ce que c'est.
Donc, quel ça, rôle, par exemple, voilà. Je reviens sur ce que je disais du moment où le style ne se sert pas lui-même, mais sert le jeu. J'ai l'impression que c'est un effet de style qui transmet vraiment une certaine dynamique de jeu.
En fait, pour... Ah, excuse-moi, viens, tu voulais intervenir.
Désolé, Stéphane. Stéphane veut dire... Stéphane.
Ouais, je connais pas ce jeu en particulier. J'avais envie de revenir sur les histoires de livres de base et de transmission. Et en fait, on avait commencé tout à l'heure...
C'est le thème du podcast. Hein.
Ouais, si vous voulez bien.
Non, je suis d'accord avec toi, Stéphane. J'allais recadrer, moi, justement.
Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, il se peut que la réception d'un jeu dépende de la personne qui va le lire, dépende de son niveau culturel et dépende de qui il s'agit. Et je pense que ce côté-là, c'est super important. Écrire un jeu, ça sert à quoi ? Sachant que les jeux de rôle, c'est de l'oralité, c'est des gens qui vont discuter autour d'une table. Mmh. C'est le fait de le codifier pour pouvoir le transmettre à d'autres pour que d'autres puissent y jouer. Et la question première dans la communication, c'est à qui je m'adresse ? Parce qu'en fonction de la personne à qui je m'adresse, eh bien je vais pouvoir me permettre d'utiliser un style ou un autre parce qu'il va recevoir d'une manière ou d'une autre ce jeu. Et en fait, si la personne à qui je m'adresse, en fait, je considère qu'il fait partie, comment dire, d'un club de gens qui ont un certain ferment culturel commun, je vais pouvoir utiliser.
Natacha, tu vas intervenir rapidement.
Je ne suis pas encore au stade d'écriture, mais quand j'en serai là, je considérerais que je ne m'adresse pas à un club, je m'adresse à quel que soit le lecteur qui va acheter mon jeu ou mon œuvre, quelqu'un d'intelligent, mais quelle que soit la personne. Et donc, en fait, pour moi, faire une adéquation entre le fond et la forme, même si ça rend un peu compliqué l'entrée dans l'œuvre, c'est considérer le lecteur comme intelligent.
Et oui, je n'ai pas peur de prendre mon lectorat pour...
Au contraire, j'ai peur de prendre mon lectorat pour un con.
Bon, moi, j'ai quand même envie de dire qu'il existe des codes qu'il faut arriver à trouver l'autre, qui ne sont pas toujours accessibles.
L'autre chose que je voulais ajouter, c'est que j'ai l'impression, dans les discussions qu'on a quand on en parle en dehors du podcast, c'est que la peur aussi qu'il y a des auteurs, c'est que le lecteur ait l'impression de comprendre, mais qu'il comprenne autre chose que le propos que vous vouliez mettre en tant qu'auteur dans votre jeu et qu'il déforme le propos que vous vouliez mettre.
On n'a pas peur d'être incompris, mais on a peur d'être compris. Contresens. On a peur du contresens, en fait.
Ouais, exactement. Ouais.
Sur cette histoire de club, en fait, j'ai un petit jeu qui s'appelle Explore Narrateur devant les yeux. Oui. Et en fait, Explore Narrateur, c'est un jeu avec un micro-format qui pourrait s'adresser à du très grand public parce qu'il s'agit de construire des histoires et les mécanismes sont très simples. Sauf qu'en fait, quand on arrive aux premières pages, on arrive avec cet acronyme qui est MJ. Tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça veut dire que ce document Explore Narrateur, c'est un livre de base qui va s'adresser à un club de gens qui sont déjà rôlistes. Et quelque part, en fait, on fait ici cette supposition. Et des suppositions, en fait, on en fait plein quand on écrit ces livres.
Romaric.
C'est vrai que ça fait pas mal de temps que je venais prendre la parole. En fait, bon, la question principale de ce podcast, c'est le moment où l'auteur de jeu, tous autour de cette table qui avons été auteurs ou qui avons cherché en tout cas à transmettre quelque chose, hein, y a pas besoin d'être un auteur de jeu. Après tout, même quand on a fait des dissertations à l'école ou même à l'école quand on écrit un texte, etc., on se pose cette question.
La dissertation se rapproche quand même du degré zéro de l'écriture.
On se pose la question. Oui, mais attends, je suis pas d'accord. Ce que je veux dire est assez complexe, donc j'ai vraiment besoin d'un petit espace là d'explication. On se dit, en fait, quand on est auteur, on se dit « Ah ça, cette phrase-là, cette proposition-là, c'est beau, mais c'est moins clair. » Et parfois, on se dit « Ça serait plus clair si je l'exprimais de façon moins belle. Et ça, je veux dire, on a tous été confrontés. Enfin, moi, dans le Val, j'y étais confronté. Ah, dans le sens,
j'ai toujours cherché à écrire mes jeux avec le degré zéro. De,
oui, oui, mais je sais pourquoi ça tient à ta psychologie, qui est que toi, ce qui compte vraiment, c'est la transmission. Ouais. Et justement, c'est là-dessus que je veux revenir. Donc, vous voyez cette dichotomie entre c'est beau, mais c'est moins clair. Et l'autre, c'est ce serait plus clair si, mais ce serait un beau. Vous voyez ce que je veux dire ?
Je pense qu'il y a aussi une question du risque. Et le risque, quand tu fais quelque chose de
bénéfice
clair, mais pas beau, voilà, t'as peu de risque. Dans le sens d'être le contresens, et il y a peu de chances qu'il arrive.
Si, justement.
Ah ouais, parce que quand tu fais un style beau, il y a des jeux, en fait, j'y ai joué, puis j'ai lu le bouquin, et en fait, quand je relis le bouquin, je me dis, mais c'est pas du tout la partie qu'on a jouée.
Fabien, s'il te plaît.
Moi, j'ai un contre-exemple sur ce que tu dis.
Adrien,
en fait,
puis Fabien.
Une des raisons pour laquelle je mets du style dans Éveil, c'est justement que suite à des parties de playtest, on m'avait dit attention, avec ton jeu, on peut jouer la manif pour tous. Mmh. Et mettre du style, ça oriente clairement dans une le style que je mets, ça oriente clairement dans une direction diamétralement opposée. Et donc pour moi, c'est justement un moyen aussi de déjouer cette interprétation là.
Le style est un média.
Moi, je voulais juste dire il y a un truc qui me semble vraiment important et qui me stresse aussi, et qui est aussi une des raisons pour lesquelles quand j'écris des règles, je suis plutôt en style zéro, qui est que c'est possible de faire clair et pas beau. C'est possible de faire beau et clair, mais c'est aussi possible de faire ni clair ni beau. C'est-à-dire d'essayer d'avoir un style, et en fait, tu te rends compte que t'es peut-être auteur de jeux de rôle, mais t'es pas auteur de roman.
C'est totalement vrai.
Et qu'en plus, tu peux complètement embrouiller. J'en connais des jeux comme ça.
Je vais juste finir. Je vais d'abord passer la parole à Vivien, ce tour de table.
En fait,
je voudrais finir, moi
en tout cas, je me porte en faux. Non, c'est par rapport à ce qui a été dit deux fois sur le risque d'être mal interprété et utilisé pour des choses qu'on n'aimerait pas soutenir, etc. Je comprends que ça puisse vous poser problème, mais je pense qu'il faut à un moment ou à un autre lâcher l'affaire. Les gens finiront toujours. Le principe du jeu de rôle, c'est de laisser des libertés aux gens, et si tu laisses des libertés aux gens, ils pourront se réapproprier ton truc dans un sens horrible.
C'est excellent.
Et c'est pas grave. Tant pis, il y a des cons ou des gens qui en pensent différemment.
Ça fait une excellente transition vers ce que je vais dire.
Je pense que c'est ce que j'ai en tête là aussi. C'est un élément que j'avais aussi avec l'agence, où à tout dire trop clairement, on y joue que d'une façon. Et avec Éveil, le fait qu'il y ait des éléments qui soient confus pour le lecteur, du moment que l'esprit de la règle est clair, c'est-à-dire, les joueurs vont prendre de la bile, alors j'ai peut-être pas exactement saisi quand ils vont en prendre, mais en tout cas, c'est un truc qui va les pousser à tomber vers ce que Clochard disait.
J'aime beaucoup ce débat en ce moment sur la règle.
À ce moment, même s'ils jouent sans appliquer la bonne règle, s'ils appliquent une règle qui a le bon esprit, moi, en tant que créateur du jeu, ça me suffit.
Ouais, c'est génial.
Moi, je voulais répondre à Stéphane sur le fait que tu peux aussi écrire ton jeu sans employer du vocabulaire reconnu comme rôlistique. Si ton MJ t'en fait un maître de cérémonie, tu en fais un conteur, je pense à Monster Hearts et à Vampire la Mascarade, tu peux très bien faire quelque chose de déjà littéraire, tout en l'adaptant à ton univers, tout en le rendant clair, parce que le rôle du conteur sera expliqué, etc.
Je suis complètement d'accord avec ça, et je pense qu'il y a un effort à faire quand on veut transmettre un jeu, si on veut le transmettre au-delà du club des rôlistes. Mais en fait, pour moi, en fait, cet exemple n'était qu'un exemple pour dire qu'il y a d'autres clubs, et qu'en fait, peut-être que l'usage de certains styles va limiter à certains publics.
Juste un point sur ce que vous êtes en train de dire, justement. Attention aussi, quelque part, c'est un choix. C'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé de vous adresser à quelqu'un en dehors du club des rôlistes, après tout.
Ouais, complètement.
Et changer le meneur de jeu par le MC, par l'éminence grise ou des trucs comme ça, c'est aussi, quelque part, rajouter une petite règle. Et donc, le rôliste qui a quand même aussi, quelque part, un acquis qui peut être important et utile, finalement, il peut être utile de se reposer sur cet acquis, justement, pour en gagner de l'efficacité. Alors, je ne dis pas que c'est nécessaire, attention, on peut tout à fait, et c'est même louable de s'adresser à autre, mais toujours changer les termes, etc., c'est aussi forcer tous les rôlistes systématiquement à réapprendre les mêmes choses, en fait, finalement, quelque part aussi.
Ou à s'enrichir. Oui et non, parce que
à se fatiguer sur des trucs pas forcément indispensables. Je suis désolé, il faut aussi accepter l'autre point de vue et pas toujours partir du principe que le rôliste, c'est le mal et qu'il faut forcément le faire sortir de
ses...
Ne diabolise pas trop non plus, quoi.
Non, mais changer le terme de MJ, c'est aussi un moyen de dire attention, vous n'êtes pas un MJ comme dans les 3/4.
Voilà, c'est
attention,
ça.
Parce que le MC dans Apocalypse World, il fait pas du tout le même boulot.
Mais voilà.
Oui, mais il y a aussi des tas d'endroits où on change le nom. Par exemple, l'éminence grise à Agon, je suis désolé, ça reste un MJ quasiment similaire au MJ de Rêve de Dragon ou de ce que vous voulez. Et ok, il est légèrement différent, mais il y a quand même tellement de points communs. Que, ok, si on prend, il y a une différence qui justifie de dire c'est différent.
Mais je te rappelle qu'à l'époque, l'état des théories n'en était pas là où elle était, il n'y avait pas tel recul. Maxime.
Et je me demande si aujourd'hui, alors j'essaie d'être clair dans mon propos parce que j'ai un exemple, mais j'ai du mal à clarifier. À vouloir se dire qu'il y a le terme MJ, donc quand on fait un jeu de rôle, on doit utiliser le terme MJ, il faut faire aussi attention parce que oui, le vocabulaire peut évoluer aussi naturellement. C'est-à-dire que tu as des. On a une certaine couche de la population qui joue au jeu de rôle. On espère qu'il y en aura de plus en plus.
Oui.
Il y aura un jour, il y aura d'autres couches de la population qui vont écrire des jeux de rôle. Et ce jour-là, c'est les gens-là qui écriront, on sera peut-être content qu'ils fassent attention au fait que nous, quand on va le lire, on sera content. Je peux dire que quand j'ai des élèves qui m'écrivent en langage de banlieue dans la copie, je ne comprends pas. Il y a des mots que je ne comprends pas. Et là, je comprends un petit peu ce qu'eux ressentent, parce que moi, des fois, dans mes énoncés, il y a des mots qu'eux ne comprennent pas. Et c'est aussi là que c'est compliqué. Alors oui, on peut se dire qu'ils vont grandir et compagnie, mais faut pas oublier que les gens, quand ils lisent un bouquin, ils n'ont pas un dictionnaire à côté. Quoi. C'est triste, mais je ne sais pas si ça a à voir avec ce dont on était parti, mais c'est un truc qui m'est venu. Quoi.
Moi, il me semblait que la critique de Stéphane, je donne la parole à Sacha puis à Stéphane à nouveau, c'est que dans Explonarateur, il y a cet aspect, cet emballage de petits livres très accessibles, etc. Et que la contradiction surgit au moment où tu ouvres le truc et que tu vois qu'en fait, il est petit, mais il y a aussi du jargon. Et tu vois, il y a une forme de contradiction entre la forme et le fond, entre l'emballage et le
quasiment tous les jeux redéfinissent ce que c'est MJ, parce que dans le doute, tous les auteurs, je pense, ils ont l'ambition que ce soit quand même des gens qui connaissent pas le jeu puissent le découvrir avec ce
C'était
jeu.
C'était pas tellement entre la forme et le fond, mais plutôt entre le public à qui ça s'adresse et la forme finalement.
Oui, je me suis surpris, effectivement, t'as raison, Natacha.
Moi, je me demande jusqu'à quel point ce public, ce club dont on parle depuis tout à l'heure, se forme pas tout seul en fait. C'est pas l'auteur qui va le former, c'est le. Dans le sens où.
Je pourrais vraiment finir mon explication, c'est exactement. Vous
êtes dans le sens où, si par exemple, j'ouvre un manuel de jeu de rôle et que ça va me parler de. Je sais pas, de zombies, tiens, voilà.
Ouais.
Je vais le refermer tout de suite parce que ça m'intéresse pas.
D'accord,
en fait.
Ouais. C'est ce qui s'est passé avec Sens. Ce qui est complètement ce qui s'est passé avec Sens. Je me suis contenté de faire ce qui me plaisait et j'ai rencontré les gens qui pensaient des choses similaires à moi et qui ont plus tard formé leur propre club. Et je suis désolé Stéphane, je vais finir mon truc. J'en ai vraiment pour 15 secondes pour dire qu'en fait, à chaque fois qu'on se pose la question c'est beau mais c'est moins clair, ou alors c'est clair mais c'est moins beau, en fait on oublie de rajouter que de toute façon, quand on est devant notre livre, le c'est clair, tu devrais rajouter pour moi, et le c'est beau, tu devrais rajouter pour moi. Et quand ça devient c'est beau mais c'est moins clair pour moi, ou alors c'est clair pour moi mais c'est moins beau pour moi, enfin, quand on commence à changer les termes parce qu'ils doivent être, on s'aperçoit que de toute façon, la clarté comme la beauté, c'est quelque chose, un élément subjectif. Donc à ce moment-là, moi mon conseil, Adrien, c'est ne te pose pas cette question-là, dis-toi juste ce que tu veux. Arrête d'imaginer comment tes lecteurs vont recevoir le truc. C'est-à-dire, arrête. Non, mais je sais que ça paraît hardi. Mais arrête, fais ce que toi, tu penses être clair, fais ce que toi, tu penses être beau. Et de cette manière-là, quand on ne se pose pas, et ensuite, je vous passe la parole, quand on ne se pose pas la question de la réception et qu'on se contente de faire ce qu'on aime, c'est là qu'on réussit à créer le club dont parlait Natacha et à transmettre vraiment ce qu'on voulait transmettre. Il faut arrêter de faire des compromis au nom de la clarté, d'une clarté qui n'existe pas, d'une clarté illusoire qu'on se met dans la tête, qui de toute façon on sera jamais clair pour tous. Donc ça sert à rien de viser
cette.
Oui, mais
je pense qu'il y a des gens auxquels tu fais confiance, les relecteurs.
Ah, mais ça c'est autre chose.
Et quand tu confies ton jeu à tes relecteurs, et si c'est pour tous ça, ils te disent qu'ils comprennent rien à ce que tu as voulu dire.
Voilà. C'est pour ça que j'ai bien dit au moment de l'écriture, Adrien arrive avec une question une problématique d'écriture. Il nous a dit ça va être un podcast sur l'écriture. Moi, je réponds écriture. Maintenant, parlons relecture. Une fois que tu as fait ce qui te plaisait, tu transmets à tes relecteurs. Et là, tu vois
ou
leur réaction.
Ou en maison d'édition, à des relecteurs que tu connais pas.
Ou en maison d'édition, à des relecteurs que tu connais pas, etc., etc. Et là, tu vois la réception.
Moi, j'ai eu des relecteurs que je connaissais pas.
Mais n'anticipe.
Hey, relisez-moi mon jeu. Puis il y a des gens qui vont. Hey, moi,
mais n'anticipez pas la relecture avant qu'elle ait lieu. Faites d'abord, en tant qu'écrivain, ce qui vous plaît. Et ensuite, laissez les relecteurs avoir leur mot à dire. Donc,
soyez prêts à vous prendre des tartes dans la gueule, quoi.
Voilà, je voulais juste dire ça. Et donc, dans la question que choisir, premièrement, ce qui me plaît le plus. Deuxièmement, ce qui sert le mieux, ce qui encourage le mieux, selon moi, et toujours selon moi, le propos de mon jeu. Et est-ce que, parfois, une règle claire mais moins belle vaut mieux pour encourager toute la beauté du bouquin derrière, etc. Et là c'est là qu'il y a l'habileté aussi de l'auteur hein, à faire les bons jugements au bon moment. Et ça, c'est très important. Mais le point de vue, à mon avis, écriture, pour, voilà, c'est ça, vraiment ça, c'est n'oubliez pas que quand vous dites « c'est beau, mais c'est moins clair », quand vous dites « c'est moins clair, mais moins clair pour qui ?» Vous n'avez pas encore eu de relecteur, donc arrêtez de vous projeter dans... Parce que, en fait, vous dites « c'est moins clair pour moi ». Et donc, si c'est moins clair pour vous... Et ça rejoint un petit peu aussi ce que tu disais, Fabien, tout à l'heure, quand tu disais « ça peut être à la fois beau et clair ». Tu vois, ça veut dire là quand c'est
je disais surtout ça peut être à la fois moche et non, moche et pas clair. C'est ça ce que je disais.
Moi je vois toujours le verre à moitié à moitié plein
et moi plutôt la partie moitié vide. Mais moi je disais ça dans le sens où moi j'utilisais aussi le style zéro pour me protéger, tu vois.
D'accord.
Ce sera pas toujours comme ça. Je sais que mon prochain projet, comme c'est un projet sur le langage et sur la poésie, je pourrais pas me permettre d'avoir un style zéro.
Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de protection de l'auteur, excusez-moi les gars. Il y a aussi beaucoup de protection de l'auteur. Quand il dit, par exemple, il y a un relecteur qui nous fait une critique qui ne nous plaît pas, où il nous dit, par exemple, « Non, mais là, t'es pas clair. » Et souvent, une défense de l'auteur, c'est « Oui, mais je trouve ça plus beau de dire ça comme ça, etc. » Oui, non, il faut vraiment viser les deux, quoi. Par contre, il faut pas... Par exemple, pour Leval, j'aurais jamais accepté qu'on fasse un truc à la magie, ultra mécanique et tout ça, parce que ça faisait partie du propos du jeu, tu vois. Donc là, il n'y avait pas à faire des
sacrifices. En réalité, il y a des gens qui ont découvert des règles un an après la sortie du Leval, quoi, alors qu'ils y jouaient depuis un an.
C'est cool, ça fait une longue traîne. Ça remplit les caisses régulièrement.
C'est la queue de la constellation.
Non, alors en fait, par découvrir des règles, il n'entendait pas des gens qui l'ont acheté un an plus tard. Il entendait des gens qui, l'ayant acheté un an plus tôt, découvrent les règles un an plus tard.
Non, mais ça, c'est des conneries. C'est
bullshit. Ah non, Pierre et moi, il y avait des règles qu'on a apprises quand vous en avez fait des podcasts.
Ah hein. Oui, mais découvre pas. Vous découvrez des règles, vous découvrez pas les règles.
Non, mais des règles qui changent tout le jeu, quoi, quand même. Donc, c'est ça.
Un truc que je trouvais intéressant dans ce que... Alors, ça rebondit peut-être un peu sur ce que tu disais, mais je repensais surtout à ce que Fabien disait à propos du fétichisme de l'objet, à propos du style, ce qui est rarement appliqué. D'habitude, quand on parle fétichisme de l'objet, on parle essentiellement de l'objet, le collector, le machin, couleur, les dés bonus et tout ça. Ça soulève l'idée que, du coup, l'œuvre en elle-même, c'est la partie.
Mais oui.
C'est les parties, l'ensemble des parties produites par le jeu, et pas le jeu lui-même.
Et c'est ça. Ça, c'est le cœur de mon argument quand je parle de fétichisme
de l'objet. Du coup, ça met en avant, quelque part, le rôle du style serait avant tout de favoriser la bonne partie.
Oui, c'est ça, absolument.
Les bonnes parties, pardon,
c'est
encore une fois.
C'est exactement ce qu'on disait avec... C'est le point de contact avec Natacha et moi. C'est-à-dire que de dire... Moi, j'ai pas... Mais c'est ce que j'ai toujours dit. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'un livre soit beau, soit richement illustré et tout. Si et seulement si ça sert la qualité, la partie quoi. Ouais. Si c'est uniquement pour faire un bel objet, si tu veux, il y a plein de livres de photos à la Fnac, d'illustrations qui sont, à mon avis, meilleurs et moins chers.
Je pense que je vais pinailler un peu, parce que j'arrête pas de me reprendre en fait sur le fait de dire la partie, parce que je pense que dire toujours la partie, ça va dans le sens de ce qu'on disait, de trop valoriser, c'est la partie unique qui va exactement dans ce que l'auteur voulait, le jeu tel qu'il l'imaginait, alors que ça produit nécessairement des parties, et des parties différentes, mais il faut qu'elles soient toutes le maximum d'une qualité, on va dire, une zone. Un peu flou, mais...
C'est une précision salutaire, oui.
Je pense que ça peut être important.
Pardon. Ouais, enfin, c'est pas très grave.
Maxime, une métaphore filée.
Oui, voilà, métaphore. T'as juste... En fait, t'auras beau utiliser toutes les mêmes graines, tu les plantes, elles feront toutes une plante différente.
Ouais, c'est ça, quoi.
Pour autant, la...
Mais alors, de ce point de vue, du coup, ça change...
Sur sa super métaphore, moi, je vais quand même sortir la métaphore. C'est la notion d'air de famille, tu sais. Chez Wittgenstein, l'idée que certaines choses, comme les jeux, par exemple, ne sont pas... tous ne partagent pas tous un même critère, mais ils ont tous un air de famille au sens où chacun ressemble à un autre, comme dans ta famille, il a les yeux de grand-père, le nez de grand-mère et
la bouche du facteur.
Les parties fait finalement aussi partie de la famille.
Les parties vont avoir un air de famille, quoi. Et donc le tout, c'est de garantir que cet air de famille là, ce soit bien l'air de famille que l'auteur a voulu transmettre.
Que ce soit tous les filles et fils de l'âme du même jeu, quoi, en quelque sorte, parce que
plus ou moins.
Voilà.
Là, vu que j'ai un petit point d'accord, ok. J'aimerais passer sur un autre élément que Stéphane avait évoqué il y a fort longtemps dans ce podcast. Et donc qui moi est un élément que j'envisage. Il parlait de tronçonner le style du livre et d'avoir des encadrés, des règles, des ouais. exemples, des machins. Moi, pour la rédaction d'Éveil, ce que j'imagine, c'est que pour apporter de la clarté, ce sont des exemples qui accompagneront le texte. Et effectivement, là, je risque de ne pas les faire en vers. Alors, il y aura sans doute un style d'écriture qui permettra de quand même rester cohérent avec le reste du livre. Mais du coup, je me suis posé la question de oui, mais est-ce que c'est pas trahir tout ce que je fais
Du coup, les gens, ils se contenteront peut-être de regarder tes exemples de parties et ils n'iront pas les vers, quoi.
Moi, je me suis posé une question assez similaire, en fait, pour Libreté. Alors, du coup, je vais un peu dans l'écriture. Ce qui m'embête, ce que je voulais le dévoiler un peu aussi, c'est qu'il y a un narrateur, en quelque sorte, dans le jeu qui est complètement dans son trip, qui est, voilà, et qui peut aller peut-être plus loin que ce que la morale, parfois, pourrait accepter. Et du coup, je me suis créé un deuxième narrateur, que j'appelle l'éditeur, en fait, et qui vient faire des encadrés et dire, bon, bah voilà, bon, l'auteur, je l'ai laissé dire ce qu'il voulait exactement, mais... Voilà, ici je voudrais apporter une précision. Si votre jeu, si vous voulez que votre jeu soit clair, vous mettez des safe words et tout ça, installez ça. L'auteur y a pas pensé et voilà.
C'est marrant parce que moi en fait j'ai aussi ça dans l'éveil, sauf que c'est pour la partie dédiée aux joueurs et la partie dédiée au maître de jeu.
Et donc la multiplicité des narrateurs, ça permet d'expliquer ce changement de ton un peu brutal sans tuer en fait.
J'arrive pas encore à trouver ce narrateur cohérent pour les exemples.
Ça me fait vraiment une. J'ai l'impression d'avoir la tête qui explose là. Je m'étais jamais posé la question de qui parlait dans mes livres. Alors que ça fait des années que je suis à côté de Romaric qui dit tout le temps ouais, c'est ça ce qui parle.
Dans tes livres, c'est toi, Fabien. Ça, on le sent. Hein, quand
mais
c'est...
ouais, je sais. Et en fait,
c'est ton zéro en fait.
C'est ça, mais c'est mon zéro. Voilà. C'est ton zéro. Non, mais il a parfaitement raison. C'est mon style zéro. Et en fait, je me rends compte.
Mais entre le jeu de l'auteur et le jeu du narrateur, il y a toujours un écart. Hein.
Et vraiment, je me rends compte, je me suis jamais posé la question. C'est qui parle dans mon, qui, mais même dans les règles, qui dit les règles dans le jeu, tu vois. Et j'ai l'impression d'avoir ouvert les yeux, quoi. J'ai l'impression d'avoir été aveugle parce que, en plus, en ayant Romaric qui a eu longtemps cette position de, c'est Sens qui écrit. Enfin, suffit de relire Ombre Monde.
Mais j'ai toujours cette position.
Romaric Sens ma bite, oui.
Ça parle de position après.
Enfin, voilà, bon, non mais quand on réfléchit à la question du style, ça, on a parlé un peu du public zéro, quoi, des gens à qui
tout le monde est zéro là. À force que tout le monde soit zéro, plus personne ne le sera là. C'est...
Alors, je ne sais pas du tout. D'accord.
J'ai en tête un autre exemple, Stéphane, en fait, de bouquin de jeu de rôle sur lequel y a différents styles et différents narrateurs entremêlés. Mmh. C'est les source books de Shadowrun. Les source books de Shadowrun sont écrits dans un style encyclopédique parce que c'est un espèce de Wikipédia de l'univers de Shadowrun qui est dumpé dans le livre. Et en fait,
c'est une mauvaise idée.
À chaque paragraphe, il y a les commentaires.
Mais non, c'est parce que je viens de faire la même chose. Dans Sens Cosmos.
Oui, je sais bien. En fait, je te disais, c'est une mauvaise idée. Sens Cosmos, c'est. Ouais, bon.
Sauf que c'est pas complètement Cosmos parce qu'à chaque paragraphe, en fait, il y a les commentaires des hackers qui participent à ça et qui du coup disent oui, alors. Qui remettent en doute la version officielle, qui se contredisent les uns les autres, qui lancent des rumeurs.
Il y a ça aussi dans les bouquins de Star Wars. Ouais, mais les nouveaux bouquins de Star Wars sur la Force et tout ça. Tu vois les commentaires de Luke, de Yoda, d'Arvador.
Je pensais aux Dresden Files, le jeu de rôle qui était adapté des romans des dossiers de Dresden. Et tu as en fait une bande de geeks qui va voir le personnage fictif qui est Harry Dresden, qui est une espèce de détective de l'étrange.
Bande de geeks qui sont introduits dans les romans.
Et qui sont dans les romans en plus, Maxime parce que l'auteur a fait jouer, a dû faire du jeu de rôle. Et il lui dit on va faire un jeu de rôle sur tes aventures, c'est trop cool. Et du coup, ils lui fournissent le jeu de rôle. Et puis, tu as les annotations en fait de Harry Dresden sur les trucs, sur les règles, sur les différents passages. Voilà,
le jeu est pas bon, mais par contre, les bouquins sont très très accessibles pour des jeunes qui ont envie de se mettre à la littérature d'urban fantasy. Très facile. Facile à lire.
C'est ça, ouais, effectivement, là pour le coup c'est
donc là facile. On rentre dans une des premières solutions finalement de la problématique de ce podcast qui est éventuellement faites varier les narrateurs, étudier des angles d'attaque en fait pour réintroduire de l'esthétique à travers la clarté des règles, mais encore une fois on parle de l'esthétique de la partie, c'est-à-dire qu'il faut que ces narrateurs et que l'esthétique de ces narrateurs, regarde dans Éveil par exemple, les strophes et tout ça, c'est parce que c'est comme dans le slam, comme dans le street art, c'est de la poésie de la rue, etc., que tu essayes de mettre en scène. Et donc, du coup, ça sert l'esthétique future de la partie. Il faut bien sûr pas que cette esthétique soit juste pour le bouquin, pour l'emballage. Il faut bien sûr que cette esthétique serve la partie.
T'as pensé à mettre un CD avec du rap
Oui. Sur non, mais, attends, sur t'imagines même pas ce à quoi il a pensé. Il
ça
a pensé
sera
à...
le supplément du crowdfunding.
Il pourrait même avoir le jeu sur support CD qui est transmis que par audio. Hein.
Le supplément, ça sera un rap de la cellule.
Je pense... ça sera les paliers du crowdfunding. Je pense que le truc, c'est que même s'il avait pu transmettre son jeu en faisant juste un tag à Paris, il l'aurait fait, tu vois. Enfin, non, mais j'exagère à peine.
Mais moi, je déconne pas. Quand je parle de transmettre le jeu par audio sur un CD, c'est le genre de connerie auquel on a pensé avec Morgan. Quand on réfléchit à des jeux, il y a des tas de formats qui nous viennent en tête.
C'est une des raisons pour lesquelles, moi, depuis le départ, je parle toujours de base de jeu de rôle. Parce que je n'aime pas l'idée du livre de règles. Parce que pour moi, c'est la base d'un jeu de rôle n'est pas nécessairement un livre. Alors, ça peut être effectivement de l'audio, des cartes postales, nous montre Stéphane, puisqu'il
les
petites choses oubliées entre les mains. C'est très important. Fabien, depuis tout à l'heure, tu voulais intervenir.
Ah non, pour une fois, je n'ai rien à dire.
Alors,
l'événement du siècle.
Mais en fait, je voulais poser une question à Adrien. Je voulais savoir, est-ce que dans l'idée que tu te fais de ce jeu, est-ce que l'amour des arts qui vont être mis en œuvre est un prérequis pour les joueurs ou est-ce que ce n'est pas le cas?
Non, c'est pas le cas. J'attends pas d'un joueur qu'il rappe pendant la partie, j'attends pas d'un joueur qu'il sache décrire les techniques de graphes
et faire des tours sur la tête.
Ouais, c'est ça.
Non, mais par contre, tu attends du joueur.
Il faut que ce soit une esthétique qui lui plaise.
Oui, et puis tu attends quand même du joueur qu'au sortir de la partie, il y a un regard sur le street art qui soit un petit peu différent.
Ah oui, ça complètement. Ouais. Ça, c'est
intéressant.
C'est
il faut qu'il en ait une vision de gauche, quoi, que c'est des gens bien.
Ah, mais c'est vachement bien de.
Pas forcément, pas forcément. Ça peut être, ok, ils ont un message à passer. Après, tu peux ne pas être d'accord avec le message, mais c'est en tout cas faire prendre conscience que c'est un.
Mais c'est important de le préciser parce que trop parler d'esthétique, on a l'impression d'une position surplombante, en fait. Et du coup, bien rappeler que surplombante.
C'est-à-dire l'auteur le côté, est tyrannique.
Ouais, c'est esthétique, c'est beau. Mais bon, en même temps, nous, on est quand même dans notre petit coin. C'est important de rappeler quand même qu'il y a aussi un...
Je ne suis pas sûr de comprendre ton argument, pardon.
Bah, c'est-à-dire que si juste dire que ce qu'on veut, c'est que les gens aient une approche esthétique du truc, c'est du coup ne pas parler de l'aspect politique.
Ah oui, alors là,
et puis, le principe du jeu de rôle, c'est d'incarner de l'intérieur, tu vois. C'est pas de surplomber. Enfin, bon, pas toujours.
Oui,
mais,
et je suis particulièrement... Enfin, on en avait discuté en privé avec Adrien. Je suis particulièrement d'accord par rapport à Éveil. Oui. Ne pas oublier la dimension politique. Des questions de race, des questions de classe aussi qui jouent très très fort quand on parle de street art ou de choses comme ça.
Ce jeu il joue sur deux côtés qui sont super intéressants parce qu'effectivement il fait se poser des questions de positionnement politique, de place dans la cité, de responsabilité personnelle et de ce qu'on est capable de faire. Il faut aussi poser des questions sur simplement je trouve que c'est un jeu qui peut pousser des gens à s'intéresser à ses arts, mais même à des arts, et à dire peut-être qu'il y a des gens qui disent bon ça m'intéresse pas, c'est pas pour moi, et au bout de quelques parties ils vont se dire mais en fait ils écrivent quoi, c'est quoi les vrais textes, ils vont se mettre à vouloir aller écouter ce qu'il y a dans un slam, parce qu'il y a ce personnage dans la session qui fait des slams tout le temps, les slameurs ils font quoi.
Je trouve qu'il y a une révolution à partir de l'école du micro d'argent. Je sais pas si vous en pensez, mais par rapport à la vision,
qu'est-ce que c'est que l'école du micro d'argent,
est-ce qu'on risque pas de s'éloigner très loin?
C'est l'album d'IAM, l'école du micro d'argent.
Je vais juste rappeler que je suis désolé, hein, c'est pas un podcast sur Éveil, même si c'est la
Mais ouais, c'est vrai.
C'est bien d'en dire du bien.
C'est
un bon jeu.
En ce cas-là, je viens à la question que j'avais en tête. C'est voilà. Est-ce qu'il faut que les gens à qui on transmet la base aient le fait de mettre de l'écrire en vers, c'est peut-être limiter la transmission de la base à un club de gens qui savent déjà lire.
Mais c'est pas grave ça. Enfin, je pense
qui savent lire, oui, c'est mieux quand même.
Non, mais qui savent déjà lire un texte en vers et qui ne vont pas voir ça comme étant un mur en disant.
Encore une fois, c'est pas être élitiste que de dire que ce jeu ne s'adresse qu'à certains types de personnes.
Il y a des gens, le livre leur tombera des mains et c'est pas grave.
Et c'est pas grave, voilà.
Moi, ça me gêne pas. Après, il faut aussi ne pas oublier que le milieu du jeu de rôle, c'est un mec qui achète le bouquin et,
oui,
et six mecs qui jouent avec lui.
C'est enfin, ça qu'ils transmettent. C'est-à-dire que dans le sens.
À part peut-être sur la route de Chrysopée où du coup les deux l'achètent. Ah
oui, oui.
Les deux
et surtout, il n'y a pas beaucoup de mecs. Mais...
Ouais, super, ok, super, ça c'est pas, peu importe.
Super business model hein, d'ailleurs, ouais, faire acheter clair. Le livre à tous les joueurs, on en a tous rêvé. Hein. Bravo, bravo, Morgan.
Ça renforce le problème en fait de dire l'État français est très content. 1/6 qui va lire et c'est cette personne-là qui va devoir le transmettre et qui aura peut-être plus de problèmes lui-même à l'intégrer et qui va en plus devoir ensuite.
En même temps, je suis désolé, mais ceux qui sont majoritairement MJ, ils ont aussi l'habitude énorme de faire du boulot pour. Passer du bouquin à la partie. Enfin, Romaric, je suis désolé, mais Sens.
Non, mais voilà, justement.
Ah, mais on peut faire le reproche à Sens, hein, je suis bien d'accord.
Sens,
hein.
C'est un excellent exemple. Pour préparer Sens,
moi, je trouve que Sens, c'est un excellent exemple. Le bouquin est cryptique, mais il est écrit pour des gens qui ont la même forme de tête que moi, en quelque sorte. Et regardez, Mike Adrien, on a même la même gueule. Je veux dire, c'est ouais, dingue quand même.
Ah, c'est clair, dit pour.
C'est clair que moi, Sens, j'ai lu ma. Enfin, ouais, voilà, pardon. Voilà. Tu vois, on dit souvent que les jeux de Frédéric Sintès sont difficiles d'accès. Ouais. Moi, j'ai jamais trouvé ça. J'ai toujours eu, enfin même dans des versions très anciennes de Prosopopée qui n'étaient pas relues, j'avais aucun problème à les faire jouer. Ouais. En revanche, la première. En fait, je suis allé te rencontrer parce que je me disais ah ce jeu a l'air cool, mais je comprends rien et je n'arriverai pas à le faire jouer.
Ouais. Et donc tu vois c'est intéressant. Voilà. Donc enfin j'ai exclu Fabien de Sens.
Et moi quand je lis Sens, j'en ai pour au moins 20 minutes après chaque chapitre à me dire mais putain il me donne pas les billes pour faire jouer, il va falloir que je bosse pendant 15 ans.
Il va falloir que je reparcours toutes les preuves, prendre les notes de quelles sont les opinions de chaque PNJ important.
Je vais devoir faire discuter de
PNJ. Pour moi ça ne pose pas de problème parce qu'il suffit qu'il y ait 10 bonhommes qui aient parfaitement bien compris le jeu, des gens comme Maxime, comme Morgan, comme Adrien, en gros les gens qui participent au podcast, qui ensuite leur expliquent et fassent animer.
Si un jour il y a un mec qui dans les ateliers imaginaires écrit les règles façon mode d'emploi d'éveil, bah tant mieux, je veux dire ça facilitera la propagation derrière, mais
bon, je peux comprendre que ce soit un choix, mais je dirais pas que ça pose
c'est pas un choix, non c'est pas
alors
un choix.
je veux dire que balayer si rapidement que ça puisse pas poser problème,
non j'ai choisi de faire ce qui me plaisait. J'ai choisi de faire ce qui me plaisait avant de... Je m'en fous de à qui ça plaira, à qui ça plaira pas.
D'accord.
J'ai choisi de faire ce qui me plaisait, et dit comme ça, tu comprends mieux, je pense. J'ai choisi de faire ce qui me plaisait, et advienne que pourra. Je préfère avoir 10 personnes convaincues que 100 personnes atteintes, mais que personne ne lise.
Mais tu peux comprendre que ça puisse poser problème.
Voilà, c'est ça. Il faut juste intégrer l'idée que ça puisse être vu comme un problème, peu importe après.
Oui, mais ça me pose pas de problème.
D'où que ça... ce qu'on disait tout à l'heure, écrivez comme ça vous plaît.
Mais oui.
C'est le choix qu'on laisse.
Bon, moi je fais le pari que ma démarche est gagnante.
Bon, moi,
parce qu'à terme, c'est comme ça que tu transmets le mieux tes idées.
J'essaye de transmettre comme ce que enfin dans tous les jeux jusqu'à maintenant, ce sera pas le cas à l'avenir, mais dans mes jeux jusqu'à maintenant, j'essaie effectivement de transmettre. Il y a quelqu'un une fois qui m'avait dit, mais comment une œuvre peut-elle être révolutionnaire si elle n'est pas accessible à tout le monde?
Non mais c'est
attends
c'est
non non bullshit, Rome.
Mais qu'est-ce que l'accessibilité?
Rome, il faut
non attends.
Rome, il faut que tu écoutes ce que la personne te dit. Elle ne termine pas cette possibilité. Elle montre juste que ça peut poser problème. Et je trouve qu'il y a un débat.
Non.
Je dis pas que le débat est tranché.
Pas de débat pour moi. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu dis une œuvre doit être accessible à tout le monde.
Je n'ai pas dit qu'elle devait être accessible à tout le monde. J'ai dit comment une œuvre peut-elle être révolutionnaire si elle n'est pas accessible à tout le monde.
Oui, tout à fait. Mais à la sortie de la critique de la raison pure, il y avait à peu près 10 pélos dans le monde qui pouvaient le lire. Aujourd'hui, la critique de la raison pure est accessible à tous dans le monde. À la sortie de la relativité générale, des idées de la relativité générale d'Einstein, il n'y avait personne qui comprenait ce qu'Einstein voulait dire. C'était hyper difficile, à part la communauté scientifique qui travaillait avec lui et les étudiants à qui il avait piqué leurs idées. Mais il n'y avait personne quasiment qui pouvait le comprendre. Et aujourd'hui, tout le monde a dans l'idée que la relativité existe, la relativité du temps existe, etc. Une grande majorité de personnes...
Je ne dis pas que tu as tort ou tu as raison, alors, je dis que le débat est ouvert.
Ça
le débat reste ouvert, à mon avis.
Ça veut dire que la meilleure manière de faire en sorte que des idées soient accessibles pour le plus grand nombre, c'est d'abord que les idées soient fidèles à ce que l'auteur en pensait, ou en tout cas révolutionnaire en elle-même. Peu importe qu'elles soient compréhensibles, si elles sont révolutionnaires en elles-mêmes, il y a une forme de transmission qui va se faire de façon organique dans le temps. On ne sait pas demain lequel jeu de rôle sera le plus joué au monde.
Au nom de Darky, je tiens à dire que je ne suis pas d'accord.
Très bien. Très bien. Donc voilà, moi je pense qu'il n'y a, y a pas de débat. Le débat, il se situe entre des gens qui pensent qu'il faut que ce soit accessible tout de suite. Tout de suite. Ils veulent du tout, tout de suite. Mais je dis merde à ces gens-là. Une œuvre doit d'abord être le fruit d'un travail, un travail qui peut être révolutionnaire, authentique.
Tout le travail de Marx, ça a été de transformer ces théories qui étaient imbitables et qui ont toujours du mal à être saisies aujourd'hui dans le manifeste du Parti communiste.
Oui. Aujourd'hui, on ne peut pas dire autre chose que les idées de Marx ont été... Non, alors d'accord, elles ont été mal comprises, mais aujourd'hui, elles sont quand même dans l'air, tu vois. On en parle.
Oui, donc lui, il a fait l'effort d'être compréhensible.
Non, c'est pas parce qu'il a fait l'effort d'être compréhensible que ça marche. C'est parce que ses idées étaient. C'est parce que ses idées ont reçu un. Parce qu'au départ.
Ah, mais arrête de faire la mauvaise foi, là.
Non, c'est pas de la mauvaise foi.
Je te donne un contre-exemple à ton Kant et ton Einstein.
Mais non, c'est pas un contre-exemple. Non, parce que ce qu'il te dit, c'est qu'en fait, que soit compréhensible ou pas, si l'idée est révolutionnaire, ça touche du monde.
Les idées trouvent toujours la force de se réaliser.
Il ne faut pas être cryptique pour devenir révolutionnaire.
Moi, je continue à rester un peu sur la position. Hein. Je suis désolé que...
Parce que tu as peur de l'élitisme. Tu as peur qu'on dise de toi que tu es élitiste.
Non, c'est pas que j'ai peur.
Vous avez lu le petit livre Indignez-vous, alors je me rappelle plus.
De Stéphane Hessel.
Qui a touché plein de gens et tout. Je ne sais pas s'il a changé grand-chose. Et pourtant, il était peut-être clair et compagnie.
Il a changé.
Super clair.
Il a changé quelques trucs quand même, ce livre. Hein, les indignés, le mouvement des indignés à la fois aux États-Unis, en Espagne, etc. Natacha veut parler depuis longtemps. Et ce débat, de toute façon, Fabien, on l'aura tout au long de la série, je pense. C'est vraiment une différence fondamentale entre Fabien et moi.
Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est la position autour de la table. Mais...
Fabien
et Rob se trouvent l'un en face de l'autre. Je voulais dire aussi, pour en revenir au manuel de jeu de rôle, ou à la base de jeu de rôle.
T'as raison, Natacha.
C'est vrai, on parlait de ça.
Heureusement que Natacha anime ce podcast.
rien n'empêche, en plus de la base de votre jeu avec la littérarité, de faire comme le podcast de la cellule, de faire comme les ateliers imaginaires, un contenu gratuit, accessible, qui complète votre propos si vous avez peur qu'il ne soit pas clair.
Eh oui.
Qui est explicite, finalement. C'est bien ce que tu disais pour... je reviens, désolé sur Marx, mais l'idée qu'il y avait d'abord un truc très complexe et ensuite une version expurgée en un sens qui indique, ok...
Le manifeste du Parti communiste, c'est, ouais. C'est un texte qui est accessible peut-être pour son époque, ouais. En tout cas, qui est infiniment plus clair que Le Capital. Le Capital est assez rigolo à lire, mais sincèrement, oui, il faut aimer lire, il faut être un intellectuel, il faut se poser la question de ce que c'est que la valeur, ce que c'est que le travail, enfin, c'est pas accessible.
Quelquefois, oui, effectivement, il y a ce côté, voilà, je vous offre une version plus accessible, comme ça vous vous faites une idée, et si vraiment vous voulez remonter aux sources, vous allez vers le truc et vous faites votre idée.
Mais je pense que ce que Rome aussi veut dire, c'est que si ton idée, même si elle est cryptique au départ, tu trouveras un moyen, soit toi-même, soit par les gens à qui tu l'as transmis, de la vulgariser. Si ton idée, elle est révolutionnaire, il y a des gens qui vont en parler. Ouais. Ces gens, ils vont en parler, ils vont faire éventuellement des vidéos YouTube de vulgarisation, des textes de vulgarisation.
Exactement.
Et ton idée, elle arrivera. Que tu aies fait l'effort de le rendre trop public dès le début, ça peut avoir tué l'idée, ça peut la tuer dans l'œuf, et là, c'est là que vous n'êtes pas d'accord, à mon avis.
Je préfère...
En termes de raisonnement, il y a quand même un défaut, qui est qu'il y a peut-être un milliard d'œuvres cryptiques, mais dont on n'a pas entendu parler, et qui, tu vois, ont disparu dans l'histoire, justement parce qu'elles étaient cryptiques, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est juste pour la réflexion logique.
C'est juste que
c'est-à-dire qu'en fait, l'argument de Romac ne peut pas être contré parce qu'on ne connaît pas des éventuelles idées révolutionnaires qui, justement, ne seraient pas arrivées jusqu'à nous.
Mais aucun de mes arguments ne peut être contré. C'est ma marque de fabrique.
Pas mal de théories du complot aujourd'hui sont basées sur des tentatives foirées, justement, de... Par exemple, le protocole des sages de Sion ou des choses comme ça.
Qui est une monstruosité.
Ah bah oui, bien sûr, mais c'était des...
Pas jusqu'au bout de ton argument.
C'était l'idée de créer des trucs cryptiques pour influencer la société. Alors ça l'a fait, mais...
Ils ont réussi du coup en un sens, parce que nous on parle vraiment de trucs dont personne ne parle, même pour les...
Aujourd'hui ça reste un truc qui est quand même...
Le nombre de gamins qui connaissent ça d'un petit peu plus loin, moi ça me fait froid dans le dos.
D'accord, pour moi c'est vraiment encore.
Ils reprennent des termes, quoi.
Moi qui m'intéresse un petit peu aux questions de.
C'est encore un des livres les plus vendus dans certains pays du monde. Hein. Le protocole des sages de Sion. Ah oui, notamment dans les pays arabes. Notamment dans les pays arabes.
Ça nourrit l'antisémitisme.
Ah, mais oui.
Les protocoles des sages de Sion.
Bien sûr.
Les protocoles des sages de Sion, c'est un faux qui a été créé par les services secrets russes à partir d'un texte anti-napoléonien. Alors, si tout ça vous intéresse, il y a plein de bouquins là-dessus. Ouais, il y a un livre de Umberto Eco qui s'appelle Le cimetière de Prague, dans lequel il s'amuse à expliquer comment les protocoles des sages de Sion ont été inventés. Umberto Eco, je pourrais faire un podcast sur Umberto Eco.
Natacha Like, apparemment.
Oui et non, j'ai pas.
Je termine sur les protocoles des sages de Sion.
On fera le podcast sur Umberto.
Et donc, ils ont changé. Et donc, c'est le plan de domination du monde, il me semble, de Napoléon. Et puis, les services secrets russes qui avaient besoin de documents antisémites à ce moment-là, les ont transformés en remplaçant à chaque fois le mot. C'est plus Napoléon. Il y a encore un troisième niveau de lecture où c'est deux personnages en enfer qui discutent. Machiavel et Montaigne.
En gros, c'est un texte qui a été monté, remonté. C'est un peu comme une image sur Photoshop qui aurait été photoshopée par plein de mecs différents.
Et qui raconte que un plan de domination du monde juif. Voilà. Et donc, c'est un document lequel il y a quand on parle du complot judéo-maçonnique, c'est un document essentiel. Juste pour terminer sur les questions ésotériques, Umberto Eco à nouveau, notamment dans Le Pendule de Foucault, je pense qu'il faut lire Le Pendule de Foucault, et je crois que si vous voulez comprendre Fabien Hildwein, il faut lire Le Pendule de Foucault, parce que c'est un livre qui m'a tellement influencé. Il parle à un moment des Rose-Croix, qui sont un texte qui est apparu, il me semble, vers la Renaissance, dans lequel il y a des gens qui ont dit « Oui, nous sommes une fraternité de Rose-Croix et nous sommes là pour aider l'humanité. N'hésitez pas à nous envoyer vos projets pour faire avancer l'humanité et nous vous contacterons. » Donc, il y a cette espèce de mystère qui s'est créé à un moment dans l'histoire où tout le monde se disait « Mais merde, c'est qui ces Rose-Croix ? C'est qui cette... » Et en fait, ça a déclenché énormément en Europe de réactions, j'ai l'impression, plutôt positives, parfois paranoïaques, puisque à la Rose-Croix aussi, on s'imagine qu'il domine le monde, mais pour justement proposer des projets de langage universel, des projets de paix universelle, qui ont stimulé à une époque les réflexions. C'est un peu étrange et un peu bizarre dans la tête, mais...
Très bien. Enfin,
rien à voir avec le style dans le jeu de rôle.
Pour conclure un petit peu ce podcast, même si évidemment ce podcast, comme beaucoup de podcasts de débat de la cellule, s'appelle Reviens. Vivien, tu voulais ajouter un petit truc avant que je
Non, c'est justement sur la conclusion, je voulais voir si on avait bien fait le tour, parce que j'avais noté donc pour le style qu'il y avait l'idée de faciliter la lecture, déjà, que ce soit juste un peu plus agréable pour celui qui peut-être ne fera pas jouer le jeu et peut-être ne l'a acheté que pour le lire. Vendre un livre, donc vendre davantage de livres qui seront à des rôlistes qui ne le joueront pas, donc faciliter la communication d'une ambiance, d'un certain état d'esprit, donc aider le meneur de jeu, ou le guide, ou celui qui lit le livre à communiquer à sa table, éventuellement faire entrer les joueurs dans l'univers, au sens large, les règles et tout ça, c'est-à-dire si eux-mêmes ont accès à certains textes, on parlait justement d'éveil pour ça par exemple, ou on peut imaginer des guides du joueur ou des choses comme ça, donc eux-mêmes par la lecture entrer davantage et ensuite faire passer un propos.
Mais c'est une très bonne idée de conclusion, ça. On va faire un petit tour de table et comme Vivien, vous allez dire ce que vous avez retiré de ce podcast. Si vous avez quelque chose à dire, c'est ce que vous avez retiré.
On sera noté sur combien ?
Toi, moi, je te noterai là.
J'ai 5 points, donc écoute. Alors,
non, mais justement, c'est bien de voir. Qu'est-ce que vous retenez finalement ? Alors, toi, Fabien, on retiendra que t'as noté que tu n'avais jamais réfléchi à qui narrait tes propres ouvrages. Ça, je pense que c'est
clair. Oui, et je pense que je vais. En tout cas, je me suis rendu compte que j'écrivais en style zéro jusque-là. Et bon, ça, je savais déjà que je voulais changer de style, mais
je voulais pas. T'as pas arrêté de parler de ça, mais à aucun moment t'as dit pourquoi tu voulais changer de style, alors que justement ton discours va plutôt à l'encontre de l'idée.
Parce qu'il est sur un jeu en ce moment.
Il l'a dit. Son prochain jeu, c'est sur le langage et la poésie, et que du coup.
Mais pourquoi du coup est-ce que le propos engagerait finalement, parce qu'on disait qu'il fallait la clarté.
Je pense que pour tout dire, c'est un peu parce que. Alors justement, on va relancer les débats. Justement, j'ai l'impression, si tu veux, j'ai l'impression
parce qu'on est limité dans le temps là.
D'accord. Ouais. J'ai l'impression que ce prochain jeu, je n'y arriverai pas par le système, ce qui est quand même une révolution dans ma tête, puisque pour moi, a priori, tout était possible via le système. Et je pense qu'il va y a des choses qu'il va falloir que je transmette à travers la forme du livre. Alors que jusque-là, c'était vraiment quelque chose qui me... En tout cas, je trouvais que les gens qui transmettaient par la forme du livre, j'avais un peu le sentiment que c'était un peu du mauvais travail d'auteur. Genre, tu nous fais un mauvais système hyper classique, tu nous fais des jolies illustrations pour nous transmettre ce que tu veux qu'on fasse, nous MJ, tu vois.
Très intéressant.
Et comme si ça touche à la poésie, qui est quelque chose de très très complexe, très subtil, là je pense que je vais être obligé de passer par ça. Aussi parce que j'ai depuis longtemps envie d'écrire sur la poésie, d'écrire de la poésie, et que ce jeu va me permettre aussi de faire ça.
Moi, voilà, si j'avais une conclusion à apporter à ce podcast très rapidement, parce que là maintenant le temps file à une vitesse folle, ce serait juste de dire que de toute façon, esthétique versus clarté, vous devez toujours vous poser la question en tant qu'auteur de vis-à-vis de la partie, pas vis-à-vis de l'objet livre ou l'objet base en lui-même. Ça, c'est très important. Pour moi, c'est un des trucs forts qui retient ce truc. Moi, si j'avais ma conclusion personnelle à apporter, c'est, alors, vis-à-vis des parties, pardon, excuse-moi, c'est pour ça que je me disais, mais pourquoi il tique Vivien quand je dis la partie? Mais en fait, c'est oui, vis-à-vis des parties, des parties possibles avec votre jeu, bien sûr. Et si j'avais un deuxième truc, et là c'est plus personnel, ce serait de dire, faites d'abord en tant qu'auteur le travail qui vous plaît et laissez aussi à vos relecteurs le soin de vous dire si c'est clair ou pas. Ne vous interdisez pas, ne vous auto-censurez pas, ne vous interdisez pas de faire des choses belles en vous disant ce sera pas clair, parce que si ça se trouve, en les faisant belles, c'est justement là qu'elles seront le plus claires.
Moi, j'ai envie de dire que ne vous interdisez pas de faire des choses claires et de refuser le style.
Et ça, vous ne pouvez pas le savoir avant d'avoir donné votre livre à un relecteur. Donc, ne vous privez pas en amont de faire du beau, de produire des choses qui vous semblent belles et moins claires, parce que vous ne savez pas au final ce qui sera clair et ce qui ne le sera pas. Voilà, ce serait ma conclusion personnelle. Maxime, tu avais une...
Non, je voulais juste revenir justement sur le rôle des relectrices et relecteurs.
Très important, ouais. C'est hyper.
C'est eux qui jugeront de si c'est vous avez bien transmis.
C'est pour ça qu'en tant qu'auteur, c'est un peu, tu vois, j'ai envie de dire, Adrien, ta question, tu te la poses trop tôt. Fais d'abord ce qui te plaît.
Non, je me l'étais posé exactement comme tu l'avais fait. C'est-à-dire que ce que j'avais fait, c'est que j'avais commencé à écrire,
oui, c'est
comme
vrai,
ça me plaisait.
Envoyé, ouais.
J'ai dit, bon, bah, Natacha, Romaric, qu'est-ce que vous en pensez, ouais. Est-ce que vous bitez quelque chose? Est-ce que ça vous semble trop confus? Est-ce que j'arrête là? Est-ce que je pars sur autre chose?
Oui, parce qu'en
moi,
fait.
Moi, j'ai pas hésité à être méchante. Hein.
Derrière, il y avait quand même la question d'Adrien qui est putain, c'est super chiant de faire ce que je suis en train de faire, c'est super difficile. D'ailleurs, alors, tu l'as dit en creux.
C'est amusant aussi, c'est
oui,
un gros
mais
défi.
En creux, t'as dit putain. J'étais peut-être un peu con, peut-être un peu hardi. Je sais plus comment tu l'as dit au début du podcast. T'as dit ce défi fou. Je sais plus comment tu l'as dit, mais bref, ça sent que tu. Et donc derrière, il y avait cette idée. Est-ce que je continue cette épreuve, cette montée de l'Everest, est-ce que ça, le jeu en vaut la chandelle? Du coup, tu as fait appel à des premiers relecteurs pour savoir est-ce que là, c'est déjà, vous pensez que ça vaut le coup? Parce que si c'est pour se taper
un
millier d'octosyllabes pour au final arriver avec un relecteur qui dit c'est imbitable, faut tout reprendre, comme ça m'est arrivé sur Sens Néant.
Il y a aussi, comme le dit Fabien, c'est-à-dire que je peux aussi avoir le truc du moi j'ai l'impression que c'est cool et que c'est un peu clair, mais si pour vous c'est et pas cool
et pas clair, voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, donc tu voulais en avoir la certitude avant même, et ça peut se comprendre.
Je l'ai toujours pas, faudra que tu relises un petit peu plus.
Oui, oui, tout à fait. À cause d'une incompréhension.
C'est ça. Et moi, l'autre élément que je retiens, c'est donc j'avais déjà en tête l'aspect des narrateurs pour aborder des éléments de règles. Et donc un texte qui est écrit par un narrateur qui s'adresse au joueur, un texte qui est écrit par un autre narrateur qui s'adresse au maître mot. Et donc
maître
là,
mot qui est le maître de jeu dans
le maître mot, ouais.
Ne pas oublier à qui on s'adresse quand on
c'est
écrit
ça.
En fait.
Et là en fait, j'avais la problématique des exemples, exemples de parties, exemples, enfin illustrations de règles. Et je pense que ça sera peut-être effectivement un dialogue entre ces deux narrateurs ou une troisième voix ou autre. Enfin, j'avais pas encore de solution pour faire ça de façon élégante. Et là, je pense que j'ai une piste de réflexion en évoquant ça.
Très bien, merci Natacha, merci Vivien, merci Maxime. Le public,
je précise juste tout ce qui est dit, ça marche aussi pour les jeux sans MJ évidemment. On peut aussi s'adresser directement aux joueurs dans le bouquin.
Ah oui, bien sûr. Pour moi, c'était. Et tout ce qu'on dit là, ce n'est pas uniquement des problématiques d'auteur. C'est aussi d'écriture, c'est aussi des problématiques de réception et donc de lecteur et donc de joueur futur. Enfin, on est bien d'accord. Merci Fabien, merci Adrien, merci Stéphane. À très bientôt tout le monde. Bonne semaine
bisous.
À tous. Portez-vous
salut.
Bien
à
et surtout prochaine. Jouez bye bien. Bye. Salut.